Bonjour et bienvenue. On va parler d'un truc qu'on ressent un peu tous, je crois.
Oui, ce sentiment que la politique est cassée.
Exactement, qu'elle ne nous parle plus. Abstention record, défiance généralisée, enfin, on connaît la chanson. Mais si, depuis le début, on se plantait complètement sur le diagnostic? Si le problème, c'était pas les politiques, ni la corruption, mais une erreur de définition, une erreur vieille de 2000 ans?
C'est une idée assez vertigineuse.
Aujourd'hui, on plonge dans une théorie qui, en fait, agit comme un détective. On va suivre les indices laissés dans des extraits des notes philosophiques politiques d'Éric Thésée.
D'accord.
L'auteur remonte à la source du crime, une simple phrase de Cicéron, pour nous montrer comment tout aurait déraillé. Accrochez-vous, parce que la conclusion est, pour le moins, détonnante. C'est exactement ça, une enquête. L'auteur identifie le suspect numéro 1, Cicéron. Cicéron en rien que ça.
Oui, et sa fameuse phrase, l'État est la chose du peuple. En latin, res publica, res populi. Ça a l'air assez anodin, dit comme ça.
Ben oui, mais en traduisant chose publique par chose du peuple, on aurait ouvert la boîte de Pandore. D'un coup, le politique a eu le droit de se mêler de tout ce qui concerne le peuple.
C'est-à-dire?
Ses mœurs, son travail, sa vie privée, bref, tout. Et pour comprendre l'ampleur du problème, l'auteur nous donne une sorte de carte, une grille de lecture, une carte-tente. Il nous dit que pour s'orienter, on doit d'abord comprendre qu'on vit tous, en permanence, dans trois types d'espaces très différents: l'espace naturel, l'espace privé et l'espace public. C'est la clé de toute l'énigme.
D'accord, alors posons les bases de l'enquête. Il faut qu'on comprenne bien cette carte. Commençons par le premier territoire, le plus évident peut-être, l'espace naturel. C'est quoi exactement?
L'espace naturel, c'est l'absence totale de règles, de garanties, de sécurité. C'est la jungle, quoi. L'océan en pleine tempête.
Le chaos.
C'est un espace où tout peut arriver, le meilleur comme le pire. Mais ce qui est fascinant, c'est que l'auteur n'y voit pas que du danger, au contraire.
Ah bon?
Pour lui, c'est aussi l'espace de la liberté absolue, de l'aventure, de la créativité brute.
C'est là que les choses se créent, exactement. C'est le lieu de la création artistique, de l'innovation de rupture, parce que c'est là qu'on peut prendre des risques insensés, sortir complètement des clous. Mais le point crucial, c'est que cet espace est indomptable.
On ne peut pas le contrôler.
Jamais. On peut construire des digues, mais la mer finit toujours par passer. On ne peut ni le protéger, ni le réglementer durablement.
Ça me fait penser un peu au Far West des débuts d'Internet, non? Avant que tout soit balisé, monétisé, régulé.
C'est une très bonne image.
Un espace de liberté totale, mais aussi de danger permanent. Ok, donc on a le chaos total d'un côté, j'imagine que l'opposé complet, c'est une sorte de bunker.
C'est une excellente image, oui. L'opposé, c'est l'espace privé. Et sa caractéristique fondamentale, c'est la clôture, le mur, la porte, la frontière.
La sécurité avant tout.
Voilà. Son but premier n'est pas la liberté, mais la sécurité des personnes et, point essentiel, l'accumulation de ce que l'auteur appelle les biens.
Des biens.
Ça peut être le terrier d'un animal qui protège ses réserves, une maison où on accumule des objets ou une entreprise qui accumule du capital. La clôture protège des intrusions, c'est vrai.
Mais elle empêche aussi de sortir.
Elle dissuade de sortir, oui. Sa logique profonde est celle du marché, de la transaction, de l'offre et de la demande.
Attendez, là c'est intéressant. On nous vend à longueur de journée la liberté d'entreprendre comme le summum de l'espace privé. L'auteur dit que c'est un leurre.
Il dit que c'est une contre-vérité, ou du moins une confusion.
C'est-à-dire?
La liberté qui existe dans l'espace privé est une liberté à l'intérieur de la clôture. C'est la liberté de gérer ses biens comme on l'entend.
D'accord.
Mais ce n'est pas la liberté de circulation ou de rencontre. La priorité absolue de cet espace, c'est la préservation, la sécurité, l'accumulation. On y entre sur invitation, on en sort avec précaution. Penser que la liberté totale s'y trouve, c'est oublier la hauteur des murs.
Ok, donc on a d'un côté le chaos créatif et d'angelot de l'espace naturel, et de l'autre la sécurité presque étouffante de l'espace privé, avec ses murs et ses règles. Ça laisse un vide immense au milieu. J'imagine que c'est là qu'intervient l'espace public pour faire le pont entre les deux.
Précisément. L'espace public, c'est l'invention la plus géniale et la plus fragile qui soit. C'est un hybride. Il prend le meilleur des deux autres.
Comment ça?
Il est sécurisé et réglementé comme l'espace privé, mais il est ouvert et accessible à tous comme l'espace naturel.
D'accord, le meilleur des deux mondes. Et c'est là que ça devient crucial pour Hull. Il n'est pas rempli de biens à vendre ou à accumuler, mais d'œuvres et de services mis à la disposition de tous.
Pour faciliter justement les échanges. Et les rencontres, oui.
Alors là, œuvre et service, ça reste un peu jargonnant pour moi. Concrètement, ça veut dire quoi? On parle de quoi?
Alors, l'auteur donne des exemples très clairs. Il les regroupe en deux familles.
Ok. D'abord, les voies communes. Les routes, les ponts, bien sûr. Le classique.
Mais à notre époque, c'est surtout les réseaux de communication, les protocoles d'Internet. Et ça devrait être les moteurs de recherche.
Ah, intéressant. Ensuite, il y a les maisons communes. Les places publiques, les bibliothèques, les musées. Et plus fondamentalement encore, les langages qu'on partage. Les langages.
Comme le français. Oui, une langue ou les mathématiques. Ce sont des constructions communes qui nous permettent de penser et d'échanger.
Donc si je comprends bien, pour être sûr, la route en béton, c'est l'œuvre, l'objet physique.
Oui.
Mais le service, c'est la garantie que cette route est entretenue, éclairée, sécurisée et que tout le monde, riche ou pauvre, peut l'emprunter librement. C'est ça l'idée.
C'est exactement ça. L'œuvre sans le service n'est qu'une ruine. Le service sans l'œuvre n'est qu'une promesse. L'espace public, c'est les deux à la fois.
D'accord.
Et c'est cette infrastructure qui permet ce que l'auteur appelle la superposition des scènes.
La superposition des scènes. Oui, pensez à une place de village. C'est un espace public. Sur cette place, une même personne peut être à la fois un parent qui surveille son enfant, un professionnel qui retrouve un client pour un café et un citoyen qui discute politique avec un voisin.
Ah oui, je vois.
Tous ces rôles se superposent grâce à cet espace commun. Selon l'auteur, c'est de cette friction, de cette rencontre imprévue, que naît la vraie richesse d'une société.
Bon, maintenant qu'on a notre carte avec les trois zones bien définies, le naturel, le privé, le public, on peut revenir à notre enquête. Quel est le boulot du politique dans tout ça?
Eh bien, la réponse de l'auteur est d'une simplicité. Désarmante et radicale.
Je vous écoute.
La seule et unique mission du politique, c'est de bâtir, d'entretenir, de sécuriser et de garantir l'accès universel à l'espace public.
Et c'est tout, point final. Son action doit s'arrêter aux frontières de la chose publique. Il n'a rien à faire dans la gestion de l'espace privé, ni dans la régulation d'espace naturel.
C'est tout, c'est hyper restrictif. Donc le slogan « Tout est politique » qu'on entend partout.
Pour l'auteur, c'est une hérésie.
La source de tous les problèmes.
C'est le péché originel, exactement. Ce slogan justifie l'interventionnisme permanent dans des domaines qui ne devraient pas le concerner, ce qui crée des effets pervers en cascade.
D'accord.
Et ça nous amène à la partie la plus provocatrice de sa critique.
Ah.
Selon lui, la plupart des grandes mesures sociales dont nous sommes si fiers, retraite par répartition, allocation chômage, confinement payé, salaire minimum,
oui.
Les acquis sociaux, ne sont en fait que des pansements.
Attendez, là, je pense qu'on va perdre beaucoup de monde. Dire que les allocations chômage ou les retraites infectent le corps social.
Ce sont ces mots, oui.
C'est d'une violence inouïe. Pour des millions de gens, c'est la seule chose qui les empêche de sombrer. Comment ils justifient une affirmation aussi brutale?
La violence de la formule est à la hauteur de la radicalité de son propos. Il ne dit pas que ces aides sont inutiles dans le système actuel.
Ah, d'accord.
Il dit que ces dispositifs n'existent que pour compenser la faillite initiale du politique.
La faillite initiale. Son argument est le suivant. Si le politique faisait son unique travail correctement, c'est-à-dire garantir un espace public fonctionnel, accessible et riche,
La plupart de ces problèmes ne se poseraient pas avec la même acuité. Et on n'aurait pas besoin de ces béquilles complexes et coûteuses. Ces pansements traitent les symptômes d'une maladie que le politique a lui-même laissé s'installer.
En abandonnant sa mission première.
Exactement.
Donnons un exemple concret de cette faillite pour qu'on comprenne bien. Où est-ce qu'on la voit à l'œuvre aujourd'hui?
L'exemple le plus spectaculaire qu'il donne, et qui nous parle à tous, c'est l'espace virtuel.
Internet.
Internet aurait dû être la plus grande maison commune et la plus grande voie commune jamais construite. Or, le politique a totalement déserté son rôle.
Il a laissé faire.
Il a laissé des entreprises privées s'emparer de ces infrastructures essentielles. Le résultat, c'est que les moteurs de recherche et les réseaux sociaux ne sont pas des espaces publics.
Ce sont des espaces privés.
Ce sont des espaces privés, oui.
Waouh ! En gros, on a laissé des entreprises privées construire des barrières et des péages, leurs algorithmes, sur ce qui aurait dû être une autoroute ouverte et gratuite pour tous.
C'est ça.
On a transformé un espace public potentiel en une myriade de centres commerciaux privés.
C'est la métaphore parfaite et dans chaque centre commercial, le propriétaire décide ce que vous voyez en vitrine, il écoute vos conversations pour mieux vous cibler.
Et il nous regroupe avec des gens qui nous ressemblent.
Pour que vous vous sentiez bien et que vous consommiez plus. C'est la définition même de la bulle de filtre.
D'accord.
Le politique, en n'assumant pas son rôle, a créé les conditions de la polarisation et de la manipulation. Et maintenant, il court derrière en essayant de mettre des pansements, des lois contre les fake news, des commissions de régulation sur une blessure béante qu'il a laissé s'ouvrir par pure négligence.
Ok, le diagnostic est sévère, le constat est clair. Mais critiquer, c'est facile. Est-ce qu'il y a une solution dans tout ça? Ou c'est juste un constat d'échec? Parce que sa vision semble tellement radicale qu'on a du mal à voir comment en sortir.
Absolument. La critique n'a de valeur que si elle débouche sur une proposition. Et la sienne est tout aussi radicale que son analyse.
Ah, il l'appelle l'offre universelle de travail public. L'idée est la suivante. L'État, en tant que gardien de la chose publique, doit proposer à chaque citoyen, à n'importe quel moment de sa vie, un certain quantum de travail public.
Un quantum?
Une certaine quantité, oui. Ce travail serait rémunéré à un niveau suffisant pour couvrir tous les besoins de base. Se loger, se nourrir, se former, se soigner. Et ce serait obligatoire. Une sorte de service civique permanent et rémunéré?
Non, et c'est le point fondamental qui change tout. Ce n'est pas une obligation, mais un droit. C'est une offre permanente sur la table.
Ah d'accord. C'est une option. Chacun reste absolument libre de l'accepter ou de préférer se consacrer à des activités privées. Créer son entreprise, travailler pour un autre, ou même ne rien faire du tout.
Et ça représenterait quoi en temps? Ce travail serait strictement limité dans le temps. L'auteur suggère une heure par jour ou une journée par semaine.
Une heure par jour. Le but n'est pas du tout de remplacer le secteur privé, mais d'offrir une alternative crédible et permanente.
Une heure par jour? Et ça paraît dérisoire. Qu'est-ce qu'on peut bien construire d'utile en une heure par jour? On imagine tout de suite une armée de bullshit jobs publics, des gens payés à regarder les voitures passer juste pour toucher leur dû.
C'est la première objection qui vient à l'esprit, bien sûr.
Comment l'auteur répond à ce risque?
La réponse de l'auteur est que l'objectif premier n'est pas la productivité de cette heure de travail, mais l'effet que l'existence même de cette option produit sur tout le reste de la société. D'accord. On remplacerait l'alternance classique travail-loisir par une nouvelle dynamique, travail public, activité privée. Et les conséquences sont vertigineuses.
Ah oui, les allocations chômage deviennent inutiles, puisque le travail est un droit permanent. Les retraites par répartition aussi, car on peut continuer cette activité toute sa vie. Et surtout, ça transforme radicalement le marché du travail privé.
Ah, je vois. C'est une sorte d'option reset permanente. Si mon boulot dans le privé devient insupportable, mal payé ou dénué de sens, je ne suis plus coincé.
Exactement.
J'ai une porte de sortie digne et garantie par la collectivité. Ça change complètement le rapport de force dans la négociation avec un employeur.
Totalement. Pourquoi une entreprise s'embêterait-elle à imposer un salaire minimum si chaque personne a de toute façon une alternative qui lui assure de vivre décemment ?
La pression vient d'ailleurs.
La pression pour offrir des conditions de travail et de rémunération attractives dans le privé deviendrait immense, non pas par la loi, mais par la concurrence de cette offre publique.
Et en même temps, ce travail, il servirait à quoi?
Eh bien, cette masse de travail, même constituée de petites contributions, permettrait effectivement d'entretenir et d'enrichir la chose publique. Entretenir les parcs, numériser les bibliothèques, modérer les forums publics, accompagner les personnes âgées. D'accord, je vois. Par ailleurs, l'auteur ajoute une autre mission clé aux politiques, garantir la transmission des langages fondamentaux. On y revient. Oui, pas juste les langues, mais aussi les maths, la logique, la musique, le code, vus comme des infrastructures de la pensée, essentielles pour que chacun puisse faire des choix libres et éclairés. Faisons une synthèse de ce voyage un peu fou. Si je résume, l'idée centrale, c'est que le politique n'est pas le manager de nos vies, mais seulement l'architecte et le gardien de notre terrain de jeu commun, la chose publique.
C'est une très bonne image, oui. Sa crise actuelle viendrait d'un double échec. Il a laissé le privé coloniser cet espace commun, notamment le virtuel, et pour compenser, il s'est mis à intervenir partout dans nos vies privées avec des pansements sociaux.
C'est ça.
La solution proposée, ce travail public universel, serait une façon de le ramener à sa mission originelle. On passe d'une logique d'assistance, où l'on reçoit passivement, à une logique de contribution et d'autonomie.
Oui.
Où la sécurité de base est un droit accessible par une participation active à la vie commune, ce qui libère ensuite chacun pour ses projets privés ou ses explorations naturelles.
C'est une synthèse parfaite. Et pour laisser une dernière piste de réflexion, je reviens à ce concept de superposition des scènes qu'on a évoqué. L'auteur affirme que la vraie valeur, qu'elle soit personnelle, sociale ou économique, naît de notre capacité à circuler librement entre les espaces, à faire se rencontrer nos différents rôles, le parent, le professionnel, l'artiste, le citoyen, l'ami. C'est dans l'espace public que tout ça se rencontre.
C'est dans l'espace public que ces facettes de nous-mêmes peuvent coexister et s'enrichir mutuellement. D'accord. La question provocatrice que ce texte nous renvoie est donc la suivante. Dans nos vies de tous les jours, et notamment nos vies numériques qui occupent tant de place, circulons-nous vraiment librement entre ces trois espaces, ou sommes-nous au contraire de plus en plus cloisonnés? La question est posée.
Nos outils modernes favorisent-ils cette superposition ou nous enferment-ils dans un seul rôle à la fois, celui de consommateur ciblé, de militant enragé, de fan isolé? Sommes-nous en train de perdre la capacité de nous rencontrer sur la place du village parce que chacun est désormais enfermé dans son propre centre commercial personnalisé?